Salut à tous, je m'appelle Sylvain et bienvenue sur Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer, et bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Références culturelles, coulisses, production et exploitation, pendant une heure on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et vous le savez, je ne suis pas tout seul pour animer le podcast. Il est blogueur, il nous raconte les nombreux concerts pop auxquels il assiste, il les raconte aussi en photo sur Instagram. Salut Thibaut.
Oui, c'est moi, je me suis reconnu. Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Il est journaliste, on l'a vu dans notre télé récemment. Dans Têtu, il a dit que Mylène Farmer n'était pas une déesse, mais une partie de lui. Et hasard et coïncidence, c'est le plus roux de la team. Salut Bastien.
Et oui, c'est moi, bonjour, bonjour à tous.
Il est au clavier à la direction musicale de ce podcast. Il est chanteur et musicien, il voue un amour inconditionnel à Lino Renault. Salut Ludo.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous.
Salut, criant de vérité ce portrait.
Chalut. Il est notre expert en Mylène Farmerologie. Il sait tout, les dates, les photos, les contrechamps, les harmonies, même si des fois il les confond.
Ah,
il participe à pléthore d'ouvrages sur Mylène, mais aussi de nombreux fanzines. Salut Clément.
Salut à tous.
Salut.
J'en profite tout de suite pour vous dire merci. Merci pour tous vos messages, vos réactions, vos encouragements. Et à l'heure où je vous parle, en juillet 2019, nous sommes à plus de 85 000 écoutes.
C'est le Stade de France.
Merci.
Vraiment, merci
beaucoup. Monde.
Et puis il y a Sylvain avec
et Sylvain.
Nous.
Et bah salut.
Salut Sylvain.
Sylvain qu'on remercie parce que le cours du Club Dial a augmenté grâce à toi depuis le dernier qui a écouté le précédent épisode. Vous saurez tout sur le Club Dial.
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Histoire de MF, Histoire
avec un S.
Et réagir sur hashtag HDMF. Si vous appréciez le podcast, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Tous les liens sont sur histoire2mf.com. Et si l'envie est là, mettez-nous des jolies notes, des commentaires.
5 étoiles même.
5 étoiles.
Pas moins.
J'ai tout dit, alors on commence tout de suite. Voici Histoire 2, avant que l'ombre abaisse, épisode 6, le défi.
Tu peux monter Histoire 2. Tiens, on va voir Histoire 2.
Bonsoir.
13 janvier 2006, 13 concerts devant 13 000 personnes chaque soir. Mylène Farmer s'offre sa première résidence. Mais je crois, Bastien, que ça a commencé bien avant le 13 janvier 2006.
Eh bien oui, parce que c'est deux ans plus tôt, le 16 décembre 2004, que Mylène Farmer annonce son grand retour sur scène. Pour ce faire, une conférence de presse est organisée à Paris. Une conférence orchestrée par Thierry Suc, le manager de la chanteuse et le producteur de ses spectacles.
Le 8 mars 2000, donc il y a bientôt 5 ans, Mylène Farmer donnait le dernier concert de sa tournée Millennium Tour à Saint-Pétersbourg en Russie, devant 15 000 spectateurs. Cette tournée qui a fait à peu près 43 villes a réuni environ 400 000 personnes. Depuis, il n'y a pas eu d'autres concerts. Je suis là pour vous annoncer qu'elle reviendra sur scène le vendredi 13 janvier 2006 pour 13 concerts à Bercy uniquement.
Le moment était vraiment solennel, quoi. On comprenait que c'était un événement qui allait se passer. Mylène Farmer sera donc de retour sur scène en janvier 2006 pour 13 concerts uniques, une résidence à Bercy, car le spectacle est intransportable. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat précisent alors leurs envies.
Ça fait pour l'instant à peu près 6 mois qu'on travaille sur le spectacle, avec quelques idées. Vous dire que ce sera magique, je l'espère, que ce sera émouvant, je le souhaite. Si Monsieur Boutonnat veut rajouter des choses, non?
Par rapport au fait que ce soit intransportable, en fait. L'idée d'utiliser toute la salle de Bercy, qui est une salle assez incroyable, et de pouvoir l'utiliser complètement. C'est-à-dire de se dire que tout d'un coup, on n'a pas besoin de restreindre les scènes, etc. On peut tout faire. Avoir plusieurs scènes, maquiller toute la salle, mettre du son partout. Donc on essaie plein de choses, on va essayer plein de choses comme ça. Plus des tas d'éléments dont on peut se servir, comme l'eau, le feu, plein de choses comme ça, quoi, qu'on peut pas transporter.
L'attente va être longue pour les fans, surtout qu'ils attendent depuis 5 ans déjà. Entre-temps, la chanteuse a sorti un best-of, les mots aux ventes colossales. On vous en parlera bien sûr dans un prochain épisode.
Évidemment.
Et a produit la jeune chanteuse Alizée, qui a sorti 2 albums et partie même en tournée. Tiens, peut-être qu'on vous en parlera aussi un jour.
Mmh.
D'ici janvier 2006, Mylène Farmer sortira en avril 2005 un nouvel album, enfin, qui s'appelle Avant que l'ombre, 3 petits points. Ce qui tombe très bien, car la résidence de la chanteuse s'appellera Avant que l'ombre, 3 petits points à Bercy.
Exactement.
Et en 2006, il y a une femme justement qui va sortir de l'ombre. Elle a quelques millénaires au compteur. Il s'agit de la reine Kia,
ben
qui
oui.
aurait été l'épouse d'un certain certain Akhenaton, pas le rappeur, hein, vous allez voir.
Ah oui, je me
disais, sarcophage est découvert dans la vallée des rois en février, donc en Égypte, et dans ce tombeau, probablement qu'on a découvert toutes sortes de trésors qui auraient leur place dans le tout nouveau musée du Quai Branly, inauguré par le président Jacques Chirac cette même année. C'est cette même année qu'il célébrera d'ailleurs l'abolition de l'esclavage, c'est une première en France. Jacques Chirac, dont le règne s'achève bientôt, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal sont désignés candidats par leurs partis respectifs pour lui succéder. Ils n'étaient pas vraiment dans l'ombre, mais veulent beaucoup plus de lumière.
Quelle bravitude.
Une femme dans la lumière cette année-là, c'est Amélie Mauresmo, qui arrive au sommet en remportant son premier grand chelem à l'Open d'Australie, exploit qu'elle doublera à Wimbledon également. Wow. En revanche, rendez-vous manqué pour l'équipe de France de football, qui s'incline face à l'Italie en finale de la Coupe du Monde.
Ah,
vous
vrai.
Savez, c'est le fameux match du coup de boule de Zidane. Bam. Autre rendez-vous manqué, celui de Dominique de Villepin avec son contrat première embauche dit CPE qui va mobiliser un grand nombre d'étudiants et de jeunes à travers toute la France.
J'avais manifesté moi.
Et ben moi aussi. Ce projet de loi sera abandonné. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous qui n'a pas été manqué cette année-là. C'est celui de Mylène Farmer avec son public au Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Oh. Tout à l'heure, on vous parlera des souvenirs de ces concerts, mais tout de suite, place au spectacle. Avant de parler setlist, mise en scène et autres moments phares, je vais vous demander à vous, la team, comment vous étiez, comment vous l'avez ressenti ce spectacle. On va commencer avec Thibaut.
Moi, j'avais eu les places à Noël en 2004, du coup, juste
oui,
après
sûr.
La conférence de presse. Et le spectacle était donc un an après. Ça me paraissait interminable. Et puis, je me souviens juste avant le début des concerts, les spots de pub qui passaient sur TF1 tous les soirs pendant presque
une
bonne
c'est vrai,
semaine.
Ouais.
Hein,
une
quand
bonne
même,
semaine, ouais.
J'étais surexcité.
Et toi Ludo ?
Et ben moi c'est la première fois que je la voyais sur scène, alors forcément c'est une émotion très particulière, et ce que j'en dirais avec un peu de mystère, c'est absolument pas ce à quoi je pouvais m'attendre.
Mm-hmm. Bastien ?
Oui, alors moi je vous parlais tout à l'heure de rendez-vous manqué, ben moi c'est tout à fait ça, parce que j'étais à quelques mois d'avoir 18 ans et du coup j'avais pas eu le droit d'aller à Paris pour voir le spectacle, et oui, alors donc j'étais bien fâché on va dire, mais c'était mes premières années sur les forums, donc je suivais les premières vidéos le soir qui étaient filmées à l'époque par des appareils photo.
Il
n'y
en avait pas beaucoup,
voilà,
en plus, hein.
J'ai vraiment attendu les supports sortir et j'ai beaucoup regardé ce concert. C'est un concert qui est très travaillé, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, mais que je trouve parfois un petit peu ennuyeux. Voilà.
Clément.
Moi, c'est un peu comme Thibaut, ayant acheté les places en décembre 2004, l'attente a été quand même très très longue et l'impatience, elle s'est un petit peu diluée au fil du temps et puis elle est revenue évidemment dès que le jour J était là et qu'on est rentré dans la salle, quoi.
Et toi, Sylvain ?
Alors, moi, j'avais pas acheté de place, contrairement à vous. Hein, j'avais pas.
Comment
parce que j'étais, j'étais assez déçu par l'album. Et en fait, le soir du 13, j'étais devant Bercy en train d'acheter des places en France.
Ouais, comment ça retourne sa veste.
Bon, le CSA voudrait nous dire que c'est illégal tout ça. Hein.
Petit souvenir sympa, puisque du coup c'était mes premiers concerts avec mon meilleur ami. Surtout c'était notre première date. C'est toujours un moment magique de découvrir Mylène un premier soir. Histoire de... Au-delà des choix de mise en scène, et on en parlera tout à l'heure avec Thibaut, je crois que la chose la plus dure pour un artiste, c'est de choisir les chansons qui vont être chantées. Et donc avec toi, Bastien, on va voir la setlist.
Cette liste, sans en douter, en fait, elle va bien évidemment faire sa part belle à l'album Avant que l'ombre.
Forcément.
On va donc ainsi retrouver 10 titres issus de ce dernier album. Il y a Peut-être toi, Dans les rues de Londres, Pornographie, QI, Ange parle-moi, Redonne-moi. Il y a même Nobody Knows, qui en plus d'être le nom du forum partenaire de cette émission, c'est aussi en fait une piste cachée sur cet album. Donc même la piste cachée vit sur scène.
Une vraie surprise.
Oui, surprenant.
Voilà.
Et on retrouve également L'amour n'est rien, Fuck Them All et bien sûr Avant que l'ombre. Dans les albums absents, il va y avoir le précédent album, Innamoramento, qui n'est pas présent du tout, ni même le tout premier album de la carrière de Mylène Farmer, Cendre de Lune. 3 chansons de l'album Anamorphosé, California, XXL et Rêver. 3 titres aussi de l'album L'Autre, Désenchanté, L'Autre et Je t'aime Mélancolie. Une belle surprise avec la présence de la chanson Déshabillez-moi, qu'on retrouve sur l'album Ainsi sois-je. Ainsi sois-je, la chanson qui sera interprétée 3 soirs sur les 13 dates à la place de la chanson L'Autre. Enfin, 2 titres les plus récents de son best-of Les mots, la chanson éponyme et C'est une belle journée.
De tube.
Oui. Deux gros tubes début des années 2000.
Très populaire.
À savoir qu'on a, grâce au bonus
du DVD,
découvert une setlist un peu différente où il y avait à l'origine un tableau supplémentaire. Le tableau balade ne comportant plus que 3 chansons. Déshabillez-moi se trouvant à la place de California en tout début de spectacle et California à la suite de Désenchanté. L'avant-dernier tableau débutait lui par Et pourtant. et Je te rends ton amour, deux chansons qui n'ont pas été conservées.
Là, dommage.
Les chansons, c'est quand même le sel d'un concert. Et voilà. Et donc déjà là, j'ai des petits doutes sur cette liste.
Quand même 10 titres de l'album Avant que l'ombre, hein, c'est la moitié du spectacle.
Ça ne présage pas d'un spectacle très dynamique non plus. Ouais. Après, il y a les tubes, hein, comme bien tu disais. Voilà, il y a les deux gros tubes du best-of que sont Les mots, c'est une belle journée. Après, il y a les incontournables.
Sans contrefaçon, Désenchanté.
Voilà. Et puis, elle n'est jamais de toute façon là où on l'attend. Et elle a décidé, en tout cas au niveau de la direction musicale, de faire quelque chose de peut-être beaucoup plus acoustique et de proposer vraiment quelque chose de différent de ce qu'elle a fait par le passé, et ça c'est super intéressant.
Comme l'album.
Très très cohérent.
Tu parles de direction musicale.
On va vous présenter les musiciens qui font partie du spectacle. Alors on a à la direction musicale Yvan Cassard, que je vous présenterai.
On connaît bien,
voilà.
On n'a plus besoin de présenter.
Oui, on le fera quand il arrive, c'est-à-dire en 1996 sur un prochain podcast. Il est épaulé par Éric Chevalier au clavier, qui est aussi un fidèle collaborateur. On a à la basse Paul Bushnell. Paul est
irlandais.
Et alors lui, il a joué pour Phil Collins, pour Tracy Chapman, pour Michael Bublé. Et là, je nous fais un grand plaisir à Clément et à moi.
Quoi, quoi, quoi?
Ah ben, il a joué avec Céline.
Ah, je savais pas. Attends, en studio alors. En studio.
Avec Céline Dion sur le titre Falling Into You.
En plus, oh là là.
Titre formidable.
Bien.
Écoutez la basse, c'est formidable.
On
si vous
n'aimez
pas Céline Dion, c'est presque pas du Céline Dion
non.
Finalement. Et on a deux guitaristes, Perry Dior Ap Gwynedd. Bon bah tout le monde l'appelle Perry,
ouais,
en fait.
Mieux.
Sinon c'est voilà. Il vient du Pays de Galles, il a joué pour Nathalie Imbruglia, il a écrit pour Kim Wilde. On a un autre guitariste anglais, c'est Milton McDonald, qui lui a joué pour Bryan Adams, Leona Lewis, Tom Jones, Annie Lennox, Mick Jagger, Tina Turner, and The Spice Girls.
Ah, c'est pas vrai.
Il les a cassés.
Et Sophie Favier, non, j'avais pas envie de me ressortir.
Entendre parler de cette personne.
Alors sur l'espagnol, il joue sur Stop.
Ah, génial.
Génial.
C'est un bon.
Et bon, on continue parce que le public de Mylène Farmer, il est assez particulier, il s'intéresse vraiment aux gens qui l'accompagnent au niveau du travail,
c'est
et c'est très rare. Et on a un chouchou dans les musiciens, il faut bien le dire.
Mais oui.
Dans tous les sens du terme, c'est le cœur. À la batterie, Abraham Laboriel Jr.
On l'adore,
il est américain, il a joué pour Eric Clapton, pour Lady Gaga, et il joue encore aujourd'hui avec Paul McCartney, c'est quand même pas rien. Et pour enrichir la rythmique, on aura aussi appel à un percussionniste qui s'appelle Nicolas Montazzo, qui lui a travaillé avec Claude Nougaro, avec Serge Lama, Michel Polnareff.
Il est excellent. Hein.
Très très important dans ce concert.
Et pour soutenir la voix de Mylène Farmer, on a deux choristes. La première est là depuis le Millennium Tour. Elle s'appelle Johanna Manchek. La deuxième, c'est Esther Dobongnaïsienne, dite Esta Divine. Et Sylvain, il adore.
Sylvain est son premier fan.
Exactement.
Ah oui,
je suis très fan.
On les adore tous.
Si Esther nous écoute, je vous embrasse.
Et alors dans le podcast sur le Tour 89, je vous avais parlé des programmations sonores. Et là, on va parler de quelque chose indispensable et assez spécifique pour cette résidence. C'est la diffusion du son en salle. Alors, vous avez entendu Laurent Boutonna lors de la conférence de presse. Il dit on va mettre du son partout, etc. Là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un système hors norme. D'habitude, on a un son façade qui vient de la scène principale. Ce sera le cas quand Mylène Farmer et les musiciens seront sur cette scène. Mais il y a une deuxième scène. C'est la scène en croix.
Ouais.
Et au-dessus de la scène en croix, ils ont mis des enceintes parce qu'ils ont décidé de spatialiser le son pour que le public soit absolument au cœur du moment.
Quand elle est sur la scène centrale.
Exactement.
Scène qui se trouve au milieu de la fosse.
Ouais. Le son vient de là où elle se trouve.
Exactement.
De là où elle chante.
Et en vrai, c'est très rare que le son soit autant étudié. Ils ont même décidé d'exploiter vraiment toute la salle en utilisant les 75 sources d'enceintes de Bercy pour y mettre des effets de bruitage, les orages par exemple.
Les enceintes qui se trouvent dans Bercy,
oui.
qui sont utilisées.
Exactement. Ils ont mis des échos dessus.
C'est ça.
Et on doit ce fabuleux travail à Stéphane Plisson et Laurent Delenclos parce que le son, il était vraiment fin et que dans des salles pareilles, c'est dur de réussir à créer une diffusion si belle.
Et le côté intransportable, du coup, il est là aussi.
Exactement. Totalement justifié
voilà,
avec ça.
C'est parce que là, tout est fait sur mesure pour la salle. Ça prendrait un temps fou de faire ça en tournée, probablement.
Ouais, et puis ce serait même impossible d'étudier le son avec autant de précision. C'est une vraie leçon de production.
Et pour revenir juste un petit mot sur la direction musicale, moi je la trouve formidable, celle d'Yvan Cassard.
Moi aussi.
Il s'est totalement adapté à l'album Avant que l'ombre. Il y a une homogénéité de début à la fin sur le son, sur les arrangements, sur les nouvelles versions. C'est un super travail. Et du coup, même si on n'aime pas forcément, ou même si c'est un peu plus ralenti que d'habitude, c'est hyper intéressant à écouter.
Et c'est beaucoup plus acoustique.
C'est très live.
C'est de très unplugged presque.
Ça manque un peu d'efficacité à mon goût, mais
c'est adapté à l'album Avant que l'ombre.
Mais il y a des choses plus immédiates comme ça. Non, c'est très bien. Histoire
de... Je vous le disais tout à l'heure, Thibaut, maintenant tu vas nous parler de la mise en scène pharaonique d'Avant que l'ombre à Bercy.
Absolument, mais tout d'abord, est-ce que vous êtes déjà allé à Florence en Italie?
Oui.
Moi jamais.
Non,
moi, pas jamais. Moi.
Toi tu y es allé, Ludovic.
Ouais, j'y suis allé deux fois.
T'as probablement vu le célèbre David de Michel-Ange, mais également le baptistère de Saint-Jean, hein, en VO, il Battistello de San Giovanni. Eh, hein.
San Giovanni, si.
Mais quel rapport avec notre concert à Bercy? Eh bien, tout simplement pour les portes de ce baptistère, hein, en particulier la porte nord, hein, réalisée par Lorenzo Ghiberti, qui a inspiré celle qui dissimule simuler la scène principale de Mylène Farmer en 2006.
Très très belle réalisation.
Ces immenses portes qui accueillaient les spectateurs. Du coup, dans ces moulures de cette porte géante, on pouvait observer différentes représentations de scènes bibliques. Rien que ça, ça met dans l'ambiance très religieuse du spectacle, avant que l'ombre à Bercy. Je peux juste comme ça évoquer une chanson, la chanson « Ange, parle-moi », rien que ce titre, où Mylène traverse la salle sur un chandelier volant pendant que les écrans géants du fond de scène diffusent des images de vitraux.
C'est très beau.
On était dans une cathédrale.
C'est superbe.
Il faut dire que ces vitraux ainsi que l'ensemble des images du spectacle sont réalisés par Alain Escal, c'est une première collaboration entre eux. D'ailleurs, il va y avoir son court-métrage qui va être diffusé juste avant le spectacle.
En première partie.
Là aussi, on sent qu'il y a eu un mariage des univers, tout ça.
Ce chandelier volant, on en parle juste vite fait, parce que c'est aussi un aspect intransportable du show, parce qu'elle survolait les gens. Elle n'a jamais été aussi proche d'autant de monde durant un concert.
Ah, on était juste à côté, quand elle passait au-dessus de nous dans la fosse. C'est assez
impressionnant. Moi, j'étais un peu déçu, parce que j'étais en gradin, mais de l'autre côté, de là où elle passait, alors je la voyais au loin.
C'est un chandelier qui a été un peu décrié, mais moi je tiens à prendre sa défense. Je suis team chandelier à mort.
Parce pareil.
En fait, avec ces décors, c'est incroyable parce qu'on part dans un univers un peu de l'opéra, je trouve.
Dans un décor très lyrique.
Voilà, très lyrique, très cinéma. Et il faut savoir qu'en plus, on a retrouvé des croquis de travail de Mark Fisher.
Qui réalise des scènes, notamment pour YouTube.
On voit des croquis de travail qui partent complètement dans l'univers de l'opéra, avec beaucoup de drapés, beaucoup de rideaux. Aussi, quelques essais dans l'univers aquatique avec des immenses coquillages, des fontaines d'eau, enfin c'est vraiment ça part très 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 loin. Et du coup ils sont restés un truc quand même très sobre par rapport à cet
ils
univers opéra.
Ils ont fait quelque chose de très classe.
Parce qu'on a une sorte en fait de petit temple, une sorte d'univers temple, mais qui est même très discret en fait. Et ces grandes colonnes qui entourent la scène. Donc voilà, mais c'est très soigné, très très beau et franchement il y a rien à redire.
C'est fait
là-dessus.
Avec beaucoup de finesse et c'est éclairé par Fred Péveri qui a vraiment fait un travail super pour mettre en forme toutes les qualités qu'ont fait ceux qui ont construit le décor, qui sont artefacts et c'est magnifique. Et au niveau de la scénographie puis des lumières, il n'y a pas un tableau qui se ressemble, il y a toujours quelque chose d'inédit. Il y a des tissus, il y a des voiles, des matières, de la texture. Sur XXL, il y a les musiciens qui montent, deux rails de lumière qui descendent du plafond qui forment un X. Un X aussi se forme grâce aux lumières sur la croix. Enfin, la lumière, il y avait vraiment quelque chose de magique, de très englobant. Et même dans le moment où justement elle est sur la scène en croix et qu'elle va faire ses balades, il y a une vraie intimité qui se crée dans ce moment-là, alors qu'elle est devant 13 000 personnes. C'est quand même assez bluffant.
C'est une question qu'on lui pose pendant la conférence de presse. Vous ne voulez pas faire des salles plus intimes? Et elle dit, mais nous, on veut créer de l'intimité dans ces grandes salles.
Dans
et
une immensité.
Et ils y arrivent effectivement.
Complètement.
Ce que je peux retrouver de ce décor, tu parles du chandelier qu'on trouvait à l'époque assez kitsch. Je le trouve toujours kitsch, mais la différence des concerts de l'époque où il y avait beaucoup de technologie, d'écrans géants, etc., ce qui se faisait, qui était très efficace, je trouve que aujourd'hui, ce décor d'avant que l'on reversie, il n'a pas pris une ride en 13 ans d'âge.
Je trouve
depuis.
Que le concert a vraiment bien vieilli.
Voilà. Sa globalité,
il se regarde encore très bien.
Il était déjà hors du temps en fait à son époque. Il est toujours aujourd'hui.
Il y avait un vrai décor.
Ça a son charme, le décor réel.
À la différence de beaucoup d'autres artistes, Mylène Farmer a proposé quelque chose de très poétique.
On a parlé du coup de la scène centrale qui occupe quasi toute la fosse de Bercy. Une immense scène en forme de croix, un symbole de plus dans ce thème religieux qu'elle va principalement utiliser pour chanter ses balades. Alors, on avait eu vent de cette scène secondaire avant la première, et Mylène Farmer ayant ce goût du secret, n'était pas nécessairement ravie qu'il y ait eu des fuites. Le devine dans l'interview qu'elle avait donnée à 7 à 8, juste avant la résidence, début 2006.
Paraît-il que ça va être énorme, intransportable. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Ou là aussi, c'est le secret de ce spectacle?
Écoutez, je vais garder ce goût du secret.
On sait que c'est une grande croix, on le sait ça, et qu'il y a un rideau d'eau.
Également, oui, ce sont les fuites sur Internet, c'est ça.
Ouais. Elle n'est pas si déconnectée que ça. Parlais de créer une intimité. Cette scène centrale, elle participe totalement à ça. Elle chante
vraiment réussi.
Elle fait un tableau balade, d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est un modèle qui a tellement bien marché qu'il a été conservé pour les spectacles suivants.
Cette scène centrale, elle a un rôle primordial dans le concert, car c'est ici que Mylène fait son entrée en scène, qui est assez longue.
C'est beau, mais c'est long.
Deux bouts de ficelle.
Très mise en scène. Il faut rappeler, du coup, quand on entrait dans Bercy, la salle était illuminée de rouge, il y avait ces immenses portes qui trônaient au fond de la salle.
Superbe.
Et après quelques heures d'attente, selon les heures à laquelle on est arrivé, on entend ça. Le noir se fait, hystérie dans la salle.
On ne s'y attend pas.
Que va-t-il se passer, etc. Une longue musique d'ambiance s'installe et s'intensifie.
Très longue. Donc c'est les chants grégoriens qu'on entend, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Là, autant dire, les nerfs sont tendus. La musique s'accélère et puis là... Le plafond de la salle s'illumine et on peut apercevoir tout là-haut une sorte de capsule sarcophage avec un intérieur mylène.
Wow.
La capsule descend, elle se pose sur cette scène centrale et là il y a 6 hommes assez imposants qui arrivent, qui soulèvent la capsule et qui rejoignent via un pont la scène principale qui se dévoile une fois que les grosses portes s'ouvrent avec un bruit mais fracassant. La capsule est posée sur un système qui l'a fait se redresser. L'écran géant affiche alors le visage d'une Mylène encore endormie qui se réveille sous l'acclamation incroyable du public.
Complètement.
Et là, elle commence la première chanson du spectacle, Peut-être toi. Autant dire qu'elle a fait son petit effet là.
Ah, bah elle a complètement fait son effet. Hein.
Ah, bah c'est grandiose.
Bon, moi ce que j'en retiens, c'est surtout que c'était long.
Oui, moi aussi.
On est vraiment, encore une fois, avec Mylène Farmer et Laurent Boutonnat dans une ambiance très cinématographique. Ouais. Quoi, on assiste au début d'une histoire. C'est incroyable. C'est très ésotérique.
C'est grandiose.
C'est une sorte de prêtresse qui arrive sur Terre et qui revient à la vie devant ses adorateurs. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est très théâtralisé, vraiment. C'est Raël.
C'est pas mon entrée préférée, mais on a parlé du Tour 89 dans un précédent podcast.
Oui.
Et moi,
toujours
je...
disponible.
Il n'y a pas ce côté efficace, instantané.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire, voilà, à un moment, elle n'est pas là, à un moment, elle est là. C'est direct. Là, elle est là sans être là. C'est-à-dire qu'on la voit, on la devine.
On cherche, on attend.
Et son entrée, c'est quand il y a son visage et qu'elle ouvre les yeux.
Exactement.
En fait, qu'elle se réveille. Hein. Alors, si l'entrée est impressionnante, la sortie est-elle majestueuse, hein. Elle se fait sur
incroyable.
Le titre Avant que l'ombre, avec trois petits points derrière. Hein. Mylène qui traverse un gigantesque rideau d'eau avant de gravir un tout aussi gigantesque escalier pour rejoindre presque nu le paradis ou les enfers, on ne sait pas trop. En tout cas, on retrouve une nouvelle fois cette notion d'image religieuse qui est très présente du début à la fin du spectacle.
Avant que l'ombre, je sais, ne s'abatte à mes pieds pour voir l'autre.
Sans trop m'avancer, je pense qu'on est unanime sur ce final.
Nous sommes très beau.
Tellement fort que ça a été le single pour promouvoir l'album avec le clip.
Avec le clip
passé
qui montrait le moment.
Et en intégralité, qui assoit vraiment les shows de Mylène Farmer comme des shows qu'il faut voir, quoi.
J'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort sur scène, en fait, en sortie de scène, tout spectacle confondu,
ouais,
je crois. C'est incroyablement poétique, incarné, c'est incroyablement fort.
Moi, c'est le plus beau final que j'ai vu dans ma vie sur scène. Tout le décor est presque caché. D'un coup, on nous révèle plein de parties du décor qu'il y a sur la scène qu'on n'avait pas vu. C'est-à-dire que l'escalier, on pouvait peut-être un peu le deviner, mais on n'imaginait pas cet escalier un peu en
perspective forcée. Ouais.
Les torches avec des sculptés en serpent. Oui.
Tout ça est amené avec une telle sobriété, mais on oublie quand même l'essentiel. Il y a un rideau d'eau.
Mais oui, c'est vrai, c'est ce fameux rideau d'eau.
Et au moment où elle dit et laissez le passé redevenir le passé. C'était une première mondiale. Quand elle dit passé, le rideau d'eau se met à écrire le mot passé en eau.
Les lettres
P-A-2-S-E. Ça pourrait être totalement Grand Guignol, ça pourrait être Las Vegas, ça pourrait être super kitsch. Mais avec tout ce qui a été fait autour, la lumière, le décor, c'est juste majestueux.
Bah, rappelle-toi, pour ceux qui étaient là à la première, quand le premier passé s'est formé là en lettres d'eau, il y a eu une vague de stupéfaction dans la salle. Ouais.
Et en plus, on ne voit même pas la technique, tellement c'est fin.
C'est
ça, c'est très très fort.
Généralement, c'est là où on voit que c'est bon ou pas.
Exactement. Et puis c'est là aussi qu'on peut aussi justifier l'intransportable, parce qu'il y avait quand même 20 000 litres d'eau. Je peux raconter une anecdote. Ce final m'a tellement marqué que le soir où je suis rentré,
t'as pris ta douche.
Il a fait j'ai essayé de faire passer avec.
Passer avec le pommeau.
Non. Et alors, je vous raconte tout. Je parle dans mon sommeil. Je parle tout le temps, de toute façon. Et le lendemain, la personne avec qui je dormais m'a dit, tu sais pas ce que t'as fait? Et bah, t'as chanté passé et en rythme et tout, et je peux vous dire que ça m'a vraiment marqué. Ah ouais. Quoi.
Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait les lettres passées qui tombaient du rideau d'eau, mais il y a aussi sa silhouette, la silhouette qui est l'affiche du spectacle.
Qui a été programmée par un technicien absolument par hasard. Il avait juste fait un test, il a vu l'affiche, il a dit je vais programmer la silhouette.
Ils ont aimé, ils ont gardé.
Et ça marche.
Ce rideau d'eau, ça paraît comme une évidence hein, dans ce final, mais c'est presque un choix de dernière minute hein, qui s'est décidé durant les répétitions. Je crois que tu as des infos croustillantes à ce sujet, Ludovic.
Eh oui, eh, ça va encore croustiller.
Ah, j'adore quand ça croustille.
Alors, ils ont contacté Aquatic Show en juin 2005 et au départ, bah, le rideau d'eau, ils l'avaient prévu pour Fuck Them All.
Ça donc.
Bah ouais. Non, parce que pour Avant que l'ombre, ils avaient décidé de faire de la pyrotechnie, de la faire disparaître dans le feu.
Le feu et l'eau dont parlait Boutonna.
Exactement. On ne sait pas ce que ça a donné, mais en tout cas, ils ont décidé de ne pas le garder parce que le test n'était pas concluant. Mais on peut ajouter que pour les chanceux comme Sylvain, Clément et moi, qui sommes restés le soir de la dernière à contempler ces portes fermées, l'eau continuait à tomber et on a pu voir cette programmation des mots Fuck Them All qui tombait. Ouais. Et on a commencé la première avec Shut Up, on a terminé sur Fuck Them All. Autant dire que Mylène et Laurent, ils ont le sens de l'accueil.
Thibaut, tu vas nous parler des costumes aussi.
Après avoir proposé à la créatrice Lorraine Stein et au duo de stylistes Marité et François Gerbeau pour créer les costumes de sa prochaine scène, c'est à l'été 2005 que Mylène Farmer se tourne vers Franck Sorbier. Pour ce spectacle, Mylène cherchait une maison de couture avec un vrai univers qui collerait au sien, et après avoir vu dans un magazine un reportage sur la préparation de la Traviata dont Franck Sorbier avait fait les costumes, elle a appelé son numéro. Alors pour l'anecdote, Franck Sorbier a proposé 7 tenues à Mylène, 6 ont pris vie et au final 5 ont été portés sur scène. Hein. Comme ça faisait beaucoup de changements et que c'était compliqué à gérer en live, Mylène a dû sacrifier une tenue rouge.
Ah, où est-elle ? On aimerait bien la voir.
On n'a jamais vu. Faudrait faire une exposition.
Ah, ce serait une très bonne idée.
Une excellente idée, oui.
Alors, parmi les tenues portées par la chanteuse, on peut évoquer le manteau en guipure noire hein, qu'elle a porté notamment sur Je t'aime Mélancolie, qui est issu de la collection Haute Couture Automne-Hiver 2005 du couturier.
Donc, il existait déjà avant le spectacle.
Ouais, voilà. Mmh. Et le reste sont des créations spécifiques pour Mylène. On peut s'arrêter sur deux tenues ?
Allez.
Allons-y.
Allez, c'est pour moi. Alors d'abord, celle de l'entrée, hein, une sorte de tenue de guerrière hein, qui a été inspirée par une scène du film Cléopâtre. Hein. On peut aussi penser que Sorbier s'est imprégné des clips de Mylène et qu'il a voulu lui aussi en faire une héroïne, en version antique cette fois, hein, car c'est une tenue qui se compose d'un bustier et d'une paire de cuissardes entièrement brodées et perlées en Inde.
Mission accomplie.
Hein, avec l'ajout d'une cape pour atteindre ce côté guerrière recherché.
Beau costume d'opéra encore une fois, hein, c'est très très travaillé, très soigné, c'est peut-être les tenues les plus abouties de toute la carrière de Mylène Farmer sur scène, parce qu'il y a un travail de dingue, notamment je crois Thibaut sur la dernière tenue.
Ce sublime manteau rouge hein, du final Avant que l'ombre, un manteau en velours rouge et brodé notamment avec des perles de Tahiti, hein, qui a été entièrement confectionné à Paris durant 400 heures. Ça en fait des podcasts à écouter.
On n'ira pas jusque-là. Hein.
On écoute un extrait des bonus du film Avant que l'ombre à Bercy où Franck Sorbier évoque cette dernière tenue.
L'idée du manteau est venue rapidement. Par contre, il y avait quand même cette idée que ce manteau, il fallait l'enlever. Donc, tout d'un coup, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on met sous le manteau ? Ben là, on est retombé sur le soutien-gorge et la culotte qui ont été repeints, etc., pour avoir vraiment cette notion de nudité, mais en même temps de brillance, etc.
Il y a une vraie jonction des deux univers, entre celui de Franck Sorbier et celui de Mylène Farmer.
Un mariage parfait, oui.
Voilà, je trouve que c'est, dans sa carrière scénique, les costumes les plus aboutis, les plus travaillés, pas ceux qui me plaisent le plus.
Voilà.
C'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas, on peut voir le travail de Franck Sorbier et la recherche qu'il a fait derrière. On remercie évidemment Stéphane hein, qui nous a aidé à préparer cette rubrique.
Merci Stéphane, trop fort.
Foncez sur son Instagram où il détaille quasi toutes les tenues portées par Mylène Farmer depuis 35 ans.
C'est un incontournable.
LMMF.mode.
Et le lien se trouve sur histoire2mf.com. Histoire de... On va s'arrêter sur 5 titres. Chaque membre de l'équipe a choisi un titre. On va commencer avec Clément.
Moi, j'ai choisi California.
Dans
donc California, parce que bah, déjà tout bêtement j'étais très content de l'entendre. C'était la première fois qu'elle était jouée finalement dans sa version format album avec l'orchestration de l'album.
C'est vrai.
Visuellement c'était vraiment bien. Moi je me souviens du bandeau jaune de, vous savez, de police là, qui se déroulait le long du sol de la scène centrale, et puis le jeu de lumière sur le pont notamment qui était magnifique avec Mylène dans la pénombre comme ça, c'était très très beau. Et puis surtout bah, pour revenir à ce que tu disais Ludovic en parlant de la direction musicale, j'avais trouvé vraiment particulièrement sur ce titre le mixage des instruments très très subtils. Tout était très bien mixé, notamment par exemple la guitare sur le deuxième pont, c'était parfait. Ouais. Et puis alors, je vais vous dire un truc, vous allez me détester parce qu'à partir de là, vous allez plus entendre que ça tout le temps.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, sur la version album comme sur la version DVD, je sais pas ce qu'ils ont fait en montant la chanson, mais ils ont pris que des prises où Mylène, elle savonne quand elle prononce la phrase le spleen d'un road movie. Alors des fois, vous entendrez, elle dit le schwing d'un road movie, le spleen d'un road movie. Bah, je suis désolé, vous allez me détester.
Il est tatillon.
On va entendre que ça.
Et puis pour finir sur voilà, c'est quand même sur mon coup de cœur, petite déception, le fait que malheureusement la chanson n'était pas accompagnée d'une chorégraphie. Mylène était seule en scène sur toute la chanson.
Oui, alors je trouve qu'il n'a pas vraiment à voir avec le spectacle. Je trouve qu'il s'insère mal dans le spectacle. Toutes ces images justement de police, tout ça, alors qu'on est dans une espèce de temple, qu'elle est en tenue un peu de princesse aztèque, tout ça. Enfin, j'arrive pas à faire le lien entre les deux.
Elle a du mal à trouver sa place puisqu'on a vu, elle a été déplacée. On ne sait pas.
On peut ajouter aussi qu'au niveau de la mise en scène, on ne le remarque pas très bien sur la réalisation de la vidéo, mais la scène, elle avance.
L'escalier central.
Ouais, l'escalier avance. Ça justifie encore. À chaque chanson, il y a vraiment des choses de fait et un côté vraiment intransportable. Là aussi, ça, faut le saluer.
Ça bougeait pas beaucoup hein, jusqu'à California. Bah, ça va bouger un petit peu après. C'est avec le moment que j'ai choisi. Voilà, c'est le moment que j'ai choisi. J'ai choisi Pornographique. Moi j'adore ce passage parce que déjà j'adore la chanson. Je trouve que quand le titre commence, il y a des effets de stroboscope. Je trouve que c'est assez énorme comme moment.
Qui n'était pas là les premiers soirs, ça a été ajouté au fil du temps.
Exactement. C'est un moment qui est chorégraphié. Elle est sur cette petite plateforme qui monte, qui est utilisée quasiment que là.
Sur Je t'aime mélancolie.
D'une manière différente.
Et je trouve que voilà, elle arrive à occuper la scène toute seule avec un moment chorégraphié. Alors c'est pas une vraie chorégraphie, hein, elle s'est bougée, elle s'est dansée. Tout ça, ça marche. Je trouve que ça donne un peu d'ambiance dans le concert. Ça en manquait un petit peu après quelques titres. Jusqu'à la fin, c'est le seul bémol de ce moment-là, c'est Los Vivancos.
Les danseurs.
Ouais. C'est un concert de 7 danseurs espagnols qui sont présents deux fois pour des interludes. Exactement. Sur le spectacle, qui vont revenir une troisième fois pour Fuck Them All.
On va pas s'éterniser.
Voilà.
C'est pas une chanson forte de l'album, c'est
mais
pas
c'est
une chanson
un des
forte
bons
du spectacle.
Du spectacle.
Et voilà, il est très bien placé en début pour un peu relancer la machine avant un tableau
plus
dansant avec Sans Contrefaçon, QI et C'est une belle journée.
Et alors là, ça va être le gros moment, Thibaut. Tu as choisi le passage. Obligé d'un spectacle de Mylène.
Bah, je choisis toujours des enchantés.
Il choisit
donc
toujours la même.
Génial.
Il faut dire que cette chanson dans le spectacle, elle arrive après les balades. Et moi, je me souviens à ma date, enfin celle que j'ai faite, du coup, le 21 janvier 2006, elle introduisait la chanson en disant ça.
Mylène va sécher ses larmes. Nous allons reprendre de longs contrats, un peu de joie de vivre aussi. Car vous me faites partager ça aussi.
Piano.
L'intro historique, quoi.
C'est l'intro historique. Et puis, cette chanson est faite là où est sa place, c'est-à-dire au milieu du public.
Au cœur.
C'est vraiment, moi, mon regret, vu que je n'étais pas présent, c'est de ne pas avoir vécu ce moment-là en tant que fan, parce que ça avait l'air incroyable.
Génial.
Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tout est hyper soigné. Il y a ces danseuses qui sont incroyables, donc qui sont venues de New York, qui font une chorégraphie, mais magnifique, sur la croix. Les danseuses, les lumières, le public,
c'est un moment
fort.
De ferveur et d'euphorie génial. Et en plus, sur une scène centrale, il y a cette difficulté, on tourne toujours le dos à quelqu'un.
Oui.
Et là, on ne ressemble pas ça une seule seconde, parce que c'est très bien chorégraphié.
Ou qu'on soit dans la salle, Et puis elle en profitait pour présenter les musiciens.
Les musiciens sont sur scène avec elle.
Il y a
tout
une petite formation
sur la scène centrale. Juste mon petit bémol de cette version, c'est que les musiciens, en particulier, je pense, la batterie ou les percussions, sont joués avec des
petits instruments qui sont pas des
électroniques, c'est une batterie électronique, voilà. Mais jouée de manière très acoustique,
un
du coup.
Son. Le rendu est moins quali. Et chaque soir, ça durait pas moins de 10 minutes.
Il y a même certains soirs où c'est presque un quart d'heure.
Ouais. Mais ça les vaut.
Mais c'est tellement fort, c'est tellement fort comme chanson.
Après nous avoir désenchanté, Bastien, je crois que Mylène va
nous déshabiller. Bah voilà, là c'est la très grosse surprise du spectacle.
Ah oui.
Déshabillez-moi, dans une version revisitée par Yvan Cassar, vraiment super bien faite.
Excellente réécriture.
Qui est là où Mylène Farmer, qu'on dit souvent belle de scène, devient une vraie bête de scène qui incarne son titre, qui va à fond.
C'est sauvage.
Et c'est un vrai kiff à regarder et écouter. Donc cette chanson, on rappelle, qui est une chanson à la base de Juliette Gréco, qui a été reprise par Mylène Farmer sur l'album Ainsi sois-je dans les années 80. Un soir, c'était le 27 janvier, Juliette Gréco était justement présente au concert et Mylène Farmer a tenu à dire ceci. Et Juliette Gréco qui justement dans une interview quelques années plus tard dira qu'elle adore Mylène Farmer et qu'elle adore surtout cette version là de Déshabillez-moi parce qu'elle le dit, hein. Il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson et je les aime pas forcément voire pas du tout, mais là Mylène Farmer elle en a vraiment, elle se l'est appropriée, elle l'a emmenée quelque part,
ouais, vraiment.
Et voilà, donc il y a un respect mutuel des deux artistes
et c'est vraiment la seule chanson inattendue
pour les fans,
oui, ouais. Sortie du chapeau
pour les fans, mais qui est aussi un gros succès. Ça a été le deuxième single live Déshabillez-moi, ouais. après Avant que l'ombre.
Dernier moment, Ludo, tu as choisi.
Vous entendez les vagues ?
Oui. On entend les vagues.
Et de l'eau. Oui. T'as une fuite chez toi ?
Et là, les premières notes arrivent. C'est les mots.
Ah, oh, bah oui.
La jeune ma vie pour tout.
Est-ce que s'il va être là,
ah,
est-ce
bien,
qu'il va y avoir
question.
Un écran ? Mmh. Qu'est-ce qui va se passer ?
Les mots les plus tendres.
Et la surprise.
When all becomes all alone.
C'est trop beau.
I'll break my life for a song.
Qui s'est levé de derrière sa batterie ? Notre chouchou Abraham Laboriel,
wow.
Junior.
Ah, ah oui.
C'était génial.
Quel
comme
coffre. On s'y attendait vraiment pas, hein.
Bah, tout le monde ignorait ses talents de chanteur, hein,
oui.
De toute façon. C'est un moment de fraîcheur, c'est un moment de douceur parce que les batteurs sont des tendres, vous savez.
Et une vraie complicité entre Mylène
et
lui.
C'était un vrai moment de partage.
Direct, ouais.
Et comme le public adore ce musicien, il y avait encore plus d'affect là.
Ah, oui.
C'était très très beau. Alors du coup, c'est Nicolas Montazo, le percussionniste, qui va remplacer à la batterie Abraham.
Il pourrait vite mettre en place.
Puis il y a une symbolique quand même, c'est qu'Abraham, on va plus le revoir sur scène après. C'est la dernière
la dernière scène
qu'il fait avec Mylène Farmer, et le fait d'avoir chanté avec elle.
Il sort par le haut.
Je crois que je préfère cette version à celle avec Syl.
Moi aussi.
Bah oui,
moi aussi.
Vocalement, c'est très très bon. Hein.
Allez, deuxième partie de l'épisode avec les souvenirs du show. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos témoignages pour ce spectacle. Merci à vous, l'appel à témoins a cartonné. Et Bastien, tu as tout lu. Alors que disent nos auditeurs sur Avant que l'ombre à Bercy ?
Eh ben, d'abord, jingle.
Pourquoi t'as un jingle, Bastien ? Moi, j'en ai pas.
Ah bah écoute, il faut être bien placé.
Je suis le seul à pas en avoir, là. Vous avez vos démos
voilà
et tout, moi, j'en ai
démos.
Pas.
Bon, j'ai l'impression qu'il faisait froid en janvier 2006, car vous êtes beaucoup à vous rappeler de cette température glaciale aux abords de Bercy. Enrique nous raconte notamment « Je me rappelle de la sécurité de Bercy qui nous offrait du café chaud de la part de Mylène. »
C'est mignon.
J'en ai pas eu, moi.
Mais Bercy, où on venait des quatre coins de la France, mon premier voyage seul à Paris, je n'avais pas encore 22 ans, mes premières rencontres avec des gens ayant la même passion que moi, se souvient Vincent. Vincent, l'impression d'être avec des milliers de membres d'une même famille venus des quatre coins du pays pour voir la reine-mère dans son palais, raconte Loïc.
J'adore.
Et puis aussi, on sèche les cours hein, pour venir à Paris.
C'est, bravo. Joli,
c'est le cas de Benjamin qui était en deuxième année de BTS. Plusieurs de mes camarades de promo m'avaient souhaité un bon concert, bah, tu m'étonnes. C'était le cas aussi pour Chris qui avait 19 ans à l'époque.
C'était le 24 janvier 2006. Moi, j'avais jamais vu Mylène encore en concert. Donc, c'était vraiment ma toute première fois, la première fois d'une longue série. C'était un mardi. Du coup, j'étais pas allé en cours pour pouvoir attendre devant Bercy dès 9h du matin et dans le froid, bien sûr, hein, puisqu'on est en janvier. Que j'étais en fosse, c'est qu'il faut venir tôt pour pouvoir être dans les tout premiers rangs. Et ça avait fonctionné parce que j'étais au premier rang devant la scène centrale, là, en forme de croix. Et donc, la première fois de ma vie que je vois Mylène, c'est quand elle passe devant nous sur la scène centrale, que je la vois à l'intérieur du sarcophage de profil. Je me dis, waouh, c'est la première fois qu'il y a mon idole en face de moi. Et après le concert, bon bah à l'époque ouais j'avais vraiment adoré. Maintenant avec le recul c'est pas ma série de concerts préférée, mais ça reste un excellent souvenir parce que c'est ma première fois et parce que en plus c'était à la place d'aller en cours donc forcément je pouvais pas rêver mieux.
Et ben voilà c'est tout bénef hein.
Bah oui.
Ouais. Donc des super souvenirs. Donc une première fois dont Chris se souviendra. Première fois aussi pour Léa qui était encore plus jeune. Écoutez.
Pour moi le concert de 2006 j'avais 7 ans. J'étais avec mes parents qui écoutent Mylène Farmer depuis avant ma naissance. C'était mon premier gros concert. Je ne connaissais que Sans Contrefaçon et C'est une belle journée. Mais j'étais émerveillée. J'ai cru voir une princesse tomber du ciel dans son cercueil de verre. Et je croyais aussi que Mylène Farmer était toute petite à cause de l'éloignement en fait. Et depuis, bah, je ne rate aucun concert parce que c'était vraiment une révélation.
Trop oh, Léa, c'est trop mignon. Là, c'est vu avec un regard d'enfant.
C'est superbe.
La princesse qui tombe du ciel. Salut, trop mignon. Léa.
Donc, il y a l'attente, les souvenirs. Et par rapport au spectacle, Franck se souvient par exemple de l'entrée dans la salle.
Je me souviens lorsque je suis rentré dans la salle, ces lumières totalement rouges et cette chaleur qui contrastait avec l'extérieur où il faisait vraiment très froid. Cette ambiance, cette musique qui était pesante avant son arrivée, c'était incroyable.
C'est à ce jour le plus beau spectacle qui m'a été donné de voir, nous écrit Simon. Avant que l'ombre est mon concert préféré, la beauté formelle, la cohérence de l'histoire, le final sublime, les costumes en particulier sont de vraies œuvres d'art pour Eric. On avait l'impression que les gradins vibraient, on chantait plus fort que Mylène sur Désenchanté. C'était dingue, nous écrit Laurent.
Ah, je me souviens aussi des gradins qui vibrent.
Ambiance de dingue, mais qui va en laisser certains sur le carreau. C'est le cas de Jean-Luc. Il s'est évanoui à la fin du concert.
Merde.
Avant que l'ombre, c'était mon premier concert. J'étais encore tout jeune et tout frêle. À l'époque, j'étais de province, du coup 300 km de route, des heures et des heures d'attente dans le froid hivernal devant Bercy. Et quand arrive Fux et Moll, avec toute l'émotion que j'ai pu avoir de ce premier concert, je finis par faire un malaise et je tombe sur Avant que l'ombre. La sécurité me porte et m'amène à l'infirmerie. Et là, je me retrouve avec toutes les infirmières autour de moi, mortes de rire, qui me sortent. Encore un jeune homme tombé sous le charme de notre chère Mylène. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans la salle, car une fois que les infirmières m'ont fait avaler de l'eau avec un sucre, bah, j'allais déjà beaucoup mieux. Mais le show était fini, et la sécurité avait amené jusqu'à ma pote pour me rejoindre et partir. Il nous escorte des backstage à la sortie. Sur le chemin, je lui demande s'il est possible d'aller à la loge de Mylène. Et là, il me sourit en me disant qu'il y a une sécurité incroyable qui empêche tout accès à plusieurs mètres de sa loge, et que même lui n'a pas accès. Voilà, j'aurais essayé.
Emmenez-moi à la loge de Mylène, s'il vous plaît.
Non, mais c'est bien, non, c'est bien, il faut tout tenter.
Après tout, qui tente rien à rien.
Voilà. Mais tellement dommage d'avoir loupé le final. Ah ouais.
Ce qu'on peut dire dans tes témoignages, Bastien, c'est qu'il y a beaucoup de fans pour qui c'était le premier concert Bercy 2006, comme toi, Ludovic.
Oui.
Bon, voilà, encore énormément de témoignages. Merci à tous pour vos messages.
Ah, merci.
C'est toujours un plaisir de lire tout ce que vous nous écrivez.
Vraiment.
On sent que ça a été une période intense pour beaucoup. D'ailleurs, Didier, qui vivait dans le quartier de Bercy, nous a écrit: les bars, les buralistes s'étaient mis au diapason, vitrines décorées de fanzines, bars servant des cocktails au nom évocateur, Libertine ou Sans Contrefaçon. Pendant 15 jours, c'était Farmerland. Je me souviens de m'être rendu sur les marches à l'extérieur de la salle de concert où certains fans se donnaient rendez-vous les soirs précédents de la première. L'oreille collée aux portes de la salle de Bercy, nous écoutions Mylène répéter dans l'excitation et dans l'incrédulité. Clément, je crois que tu y étais à ces répétitions
et
aussi.
Bah oui, quand il dit certains fans, collée aussi. Ouais, j'y étais. Alors moi, c'était dans le hall de Bercy. J'y suis allé 2 jours. Le premier jour, j'avais entendu répéter les musiciens qui faisaient le premier tableau. Uniquement les parties musicales. Et puis le deuxième jour, Mylène répétait toute la partie balade et c'était super intéressant à écouter parce que du coup, on entendait les choses se mettre en place. Donc ça pouvait être par exemple pendant 1 heure, il répétait Ange parle-moi en boucle en essayant à chaque fois une nouvelle petite chose, un instrument, ils allaient changer une partie. C'était voilà, vraiment, ils tâtonnaient. Hyper intéressant de les écouter travailler, faire des choix. Et puis à la fin de cette deuxième journée, ils ont répété Désenchanté, répété Je t'aime mélancolie aussi. et j'ai entendu répéter « Je te rends ton amour ».
Oh, oh. Tiens donc.
Avec Mylène qui chantait, évidemment, wow. qui s'était un peu trompée dans les paroles.
Tu es dur à chaque fois,
ouais,
toi.
À chaque fois,
ça rigole pas avec ça, pinaille. Histoire de... On reste avec toi, Bastien, et tu vas nous faire une jolie revue de presse de ces concerts. Alors, comment les journalistes ont parlé de la résidence ?
Mais écoutez, la presse, elle est unanime et elle est même conquise après avoir vu ce spectacle. Ambitieux spectacle à la mise en scène soignée pour Le Monde. Mylène Farmer a enflammé Bercy pour Télé Loisirs et du coup, bah, elle a même fait fondre Bercy pour Ouest France après avoir foutu le feu, tu m'étonnes. Spectacle délirant pour Midi Libre. Globalement, la plupart des articles s'efforcent surtout de décrire le spectacle et ce sont bien évidemment l'entrée et la sortie de scène hein, qui sont les plus décrites, avec des efforts faits dans les comparaisons et les métaphores, et la palme revient, je dois le dire, à Henri-Jean Servat dans Midi Libre, qui décrit le début du spectacle ainsi. À mi-chemin entre le chauffe-eau électrique et la chasse virginale de Thérèse de Lisieux, une sorte de pierre météorite zigzague au plafond comme aimantée téléguidée par rail. Vous avez vécu la même chose, la chasse
Il avait perdu en Paris.
Bah écoutez, c'est imagé en tout cas. Un article que j'aime beaucoup, c'est celui du journaliste Carlos Gomez dans le Journal du Dimanche, qui écrit ceci. Comme Barbara, elle pourrait chanter « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Comme Barbara, son apparition provoque des transes dans les premiers rangs, prétexte à un culte étrange qui doit plus à la religion qu'au musical. Comme Barbara, enfin, Mylène Farmer cultive le secret hors scène, moins par calcul que par névrose ou vertige. Mais contrairement à la Dame en Noir, la Fille en Rouge n'est pas considérée comme une artiste importante par beaucoup d'observateurs. Le show qu'elle offre à Bercy va peut-être infléchir la tendance. Et je crois que ça l'a infléchi.
Ouais, voilà. C'est très juste.
Et le JDD termine son article par un point people, indiquant la présence d'Audrey Tautou dans la salle, précisant également que le chanteur Raphaël et l'actrice Carole Bouquet sont annoncés. Le Matin, journal suisse, lui, a aperçu dans la salle Yannick Noah, Jean-Claude Camus, Sandrine Kiberlin, Grégory de la Starac et PPDA. Télé Loisirs a croisé au buffet Laurent Boyer, Christophe de Chavannes, Evin Thomas et Orlando, du bon monde.
Ah,
hein.
Ouais.
Et alors, je sais pas si le Figaro a été invité au buffet, car à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait le Figaro ?
Ils l'ont descendu.
Oh oui, ils vont pas aimer.
Eh bien, il râle au Figaro Magazine, évidemment. Ça râle. Le journaliste François Deletraz commence son récit ainsi. Un spectacle de Mylène Farmer, cela se mérite. Et la désorganisation légendaire de Paris-Bercy est là pour le rappeler. Pas de signalétique pour faciliter l'accès. 6 portes pour faire entrer 10 000 personnes. Cela se solde évidemment par des files d'attente colossales. On est à deux doigts du hashtag Hidalgo démission de la part du Figaro.
Ça n'a aucun rapport
mais
avec
c'est
le
ça,
spectacle.
Sa critique du concert.
Mais je vous rappelle, donc on est en 2006. Ça décourage au Figaro. Sarkozy arrive bientôt. Puisqu'on est dans le Figaro, vous prendrez bien un peu de misogynie. Et le journaliste se met à penser à la place de Mylène Farmer et la renvoie à son statut de femme procréatrice. Il écrit ainsi. Alors qu'on fonde elle-même, Mylène Farmer a ce besoin viscéral d'être mère, de poser son sac et de s'ancrer quelque part. Elle s'obstine à n'être qu'un mythe que l'on admire pour l'image qu'elle véhicule et non ce qu'elle est. Plus loin dans l'article, le temps passe. Mylène Farmer ne le sait que trop.
La voici
à un cap de sa carrière où il va falloir assumer les années, penser à demain et admettre qu'elle ne pourra pas éternellement jouer à la fillette fragile. Eh bien, vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de dire comme Mylène Farmer, fuck them all.
Bien raison. Histoire de... Je vous propose un petit instant bonus. Comme dans un DVD qu'on regarde après le spectacle, c'est un peu l'instant Clément avec les coulisses et anecdotes. Alors Clément, raconte-nous tout ça.
C'est beau l'instant Clément.
T'as un jingle, non ?
Ouais, bah la prochaine fois, merci. Peut-être.
Il a pas encore de jingle.
Mais déjà, il faut dire que le week-end avant la première, alors que la troupe est encore en pleine répétition... Le décor est déjà monté. La mairie de Paris investit Bercy pour la cérémonie des vœux du maire aux employés avec un petit spectacle d'humoriste. Donc imaginez un peu Yves Lecoq, Michel Bougenat, Anne Roumanoff qui nous fait son radio bistrot.
Ça va, c'est pas croire.
Dans la grande salle de Bercy.
Mais c'est génial.
Ils sont où du coup ?
Le
décor
était déjà monté. La troupe avait déjà répété. Hein. Ouais. On n'a pas d'images, mais alors vous imaginez.
Et si on a quelqu'un qui a les images, vous pouvez nous contacter.
Là,
hein.
C'est du collector.
Ah ouais, franchement.
Je voudrais également vous parler d'un truc. Tous vous vous en souvenez, surtout ceux qui étaient à la première, évidemment. Mylène qui se trompe dans les paroles de « Déshabillez-moi ».
Oui.
Oh, j'adore.
On adore.
Ah bah oui, bon, Déshabillez-moi, c'est vraiment une chanson qui lui aura résisté parce qu'au fil des dates, il y a d'autres petites erreurs comme ça. On le disait un peu plus tôt, la partie chantée sur la croix, voilà, c'était une vraie occasion de proximité avec le public. Bah, notamment, Mylène, elle a profité de cette série de concerts pour faire monter des fans sur certains titres. Parfois, c'était sur Rêver, d'autres sur l'autre. Au total, sur 13 représentations, c'est 9 fans qui partageront quelques instants à ses côtés. Je dis 9 fans, mais en fait, il y a 10 concerts sur lesquels quelqu'un est monté sur scène. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est monté deux fois
c'est pas
sur
vrai.
Scène. Eh ouais, ouais. La première fois, bah, c'est un fan en fait canadien. Il avait eu la bonne idée d'agiter un petit drapeau du Canada pour attirer l'attention de Mylène. Ça a marché.
Ah, je savais pas du tout.
Elle l'a
ça.
Fait monter. Et puis il est remonté un autre soir. Et alors là, attention, il a même eu droit à son petit bisou sur la bouche. Oh. Et Mylène l'a appelé mon fiancé.
Oh. Ah bah dis donc.
Et puis bah pas de spectacle vivant sans petits imprévus. Moi, c'est ce que j'adore. Hein, quand la machinerie.
C'est le direct.
Voilà, direct.
Ça a tout son charme.
Ah, ma petite bourde préférée, c'est le 25 janvier. En fait, Mylène, elle est encore hors scène. Elle attend que Sans Contrefaçon commence et elle a oublié que son micro est déjà branché. Et on l'entend dire vite, vite, vite. Et puis alors, surtout, bah, une série de concerts au mois de janvier, en plein hiver. C'est toujours un peu risqué. Et si Mylène, elle s'est préparée physiquement, vocalement, bah, il y a toujours un détail qu'on peut pas maîtriser. C'est le coup de froid. Et dès la deuxième représentation, donc dès le 14 janvier, Mylène a la gorge qui commence à piquer.
Ah ouais.
Elle tousse entre deux chansons. Elle s'en excuse même. Elle dit, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, les représentations s'enchaînent et la pauvre, elle va vraiment avoir des petits problèmes de gorge. Quelque chose qu'elle confirmera d'ailleurs elle-même entre deux chansons. À tel point que le 25 janvier, après Sans Contrefaçon, elle demande à ce qu'on lui apporte à boire sur scène.
Si vous me permettez, je vais monter un petit peu, hein, parce que j'ai la gorge qui est en train de sombrer. Ce qui ne vous empêche pas de reprendre avec moi.
J'adore.
Ah ouais, elle lâche pas le truc, quoi, mais tant mieux. Hein.
Et puis, bah, enfin, ça a vraiment continué jusqu'à la fin, comme on le disait, parce que le soir de l'avant-dernière, elle est prise d'une quinte de toux entre deux balades. Et même plus loin dans le spectacle, pendant la présentation des musiciens sur Désenchantés, elle s'en excuse, elle choisit de le faire sur le ton de l'humour. Elle dit, voilà, je sais plus si je dois rire ou tousser. Et puis, bah, dans les problèmes, cette fois-ci, moins humains, plus techniques, il y a eu beaucoup de problèmes avec les écrans, parce que voilà, il y a beaucoup de programmations qui sont faites en amont, qui sont difficiles à gérer. Mmh. Notamment l'avant-dernière représentation, le 28 janvier, il y a un des écrans de la scène principale qui est resté en panne sur la majeure partie du concert. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, Mylène s'en est excusée. Pas besoin de s'excuser, nous on lui en veut pas, parce que ça renvoie à la dimension humaine dans l'énorme entreprise que constitue un tel spectacle.
Ouais. Ah oui, t'as raison.
Merci Clément. Mylène Farmer va exploiter cette résidence avec des supports live. Et bien justement, c'est la troisième partie de l'épisode. Alors Thibaut, les CD, DVD du film, c'est sorti quand tout ça?
Ah bah c'est ce qu'on attend toujours. Ah ouais. À peine toujours, le concert vraiment. Terminé, on est là. Quand est-ce que va sortir le live qui s'intitule Sans Surprise Avant que l'ombre à Bercy, hein. L'album et le film sont sortis simultanément le 4 décembre 2006, hein, avec plein d'éditions différentes disponibles sous le sapin, évidemment, hein, dont une édition limitée qui reprenait les portes de la scène en version plastique.
Ouais, oui, moi j'ai la maison.
À ce sujet, on s'écoute une petite archive du 12 décembre 2006 où Mylène vient promouvoir son live sur le plateau du 20h de Patrick Poivre d'Arvor.
Alors Bercy, on va pouvoir voir, grâce notamment à ce DVD qui vient de sortir, qui vous ressemble d'ailleurs, parce qu'il faut l'ouvrir, c'est comme une sorte de petit tabernacle avant que l'ombre, etc., etc. Votre concert, c'était archi plein. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé vous voir, notamment en province. C'est pas possible que vous créiez
malheureusement,
une tournée.
J'avoue que ça a été quelque chose d'assez difficile, aussi bien pour le producteur Thierry Suc, qui m'a accompagnée dans cette très très belle aventure. Et malheureusement, parce que c'était un spectacle intransportable, on ne pouvait pas donc aller en province. Là, cette fois, dans un manque d'humilité, j'ai demandé aux personnes de venir à moi.
On ne peut pas faire une ressuscité à Paris quand même, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui aurait bien aimé. Non,
c'est fini, et ce spectacle est vraiment dans sa boîte fermée, scellée.
D'accord, il est fermé. Voilà, on va le refermer.
Ah, il avait vraiment envie de le revoir,
Patrick,
ce spectacle.
Il
ce petit tabernacle
qu'il faut ouvrir comme vous.
C'est un peu bizarre, oui. Ouais. Gros succès. L'album s'est classé en tête des ventes dès sa sortie. Il s'est écoulé à plus de 190 000 exemplaires. À noter surtout l'énorme succès du film réalisé par François Hans, qui s'est écoulé à près de 440 000 exemplaires.
C'est incroyable. incroyable, c'est incroyable. Ce chiffre pour un DVD musical.
Il y a des films qui font pas autant.
Bravo à François Hans, vraiment.
François Hans, il est vraiment au sommet, j'ai envie de dire. Il arrive à créer un film, c'est d'une beauté incroyable.
Il a réussi à capter l'essence de la lumière, du spectacle, voilà. Vraiment, c'est magnifique.
Notamment le final.
Qui est très compliqué.
Il passe vraiment un grade de réalisation avec ce spectacle qu'il va garder ensuite, bon, avec des contraintes différentes. Mais là, il y a vraiment un truc qui se marque avec le film de ce spectacle. Il est incroyablement beau.
Un film édité en DVD et en Blu-ray pour la première fois, hein. Un support qui a mauvaise réputation, mais je crois que Ludovic souhaite venir à sa rescousse.
Eh ben oui, parce que la paix. La paix, parce qu'il y a une très mauvaise presse autour de ce Blu-ray qui est sorti 2 ans après le DVD. Il faut savoir que le film, il a été réalisé sur de la pellicule. C'est la dernière fois qu'ils vont réaliser sur la pellicule. Et donc, les gens, ils s'attendent à
donc
voir sur un support Blu-ray, ils s'attendent à voir de la vidéo HD, mais ça reste de la pellicule, donc ça n'aura pas du tout le même rendu. Ça va générer du grain. Notre œil, il est pas très familiarisé avec le grain qu'offre la pellicule, mais une fois que vous avez passé ça, et ben c'est beaucoup plus beau que le DVD. Les plans, ils sont beaucoup plus précis.
Ouais,
les couleurs
ouais.
Et l'aspect photographique de la pellicule, ben il prend tout son sens. Quand vous regardez justement la partie sur la croix, c'est un vrai bonheur comparé au DVD où c'est vachement pixelisé. Ensuite, alors le film, parfois, il souffre de problèmes de mise au point qui sont directement liés à la captation. Donc ça n'est en aucun cas un problème de support. Quoi.
C'est le meilleur rendu possible pour la pellicule.
Les couleurs et les lumières.
Oui, parce que je l'ai montré aux copains du podcast. Et
on l'a acheté, du coup.
On l'a acheté, ouais. Donc il y a eu 2 ventes en plus pour Thibaut et moi.
Parce qu'ils pensaient vraiment que le Blu-ray était de piètre qualité,
c'est
alors
ce qu'ils
que non.
Disaient, hein. C'est ce qu'ils disaient.
À tort.
C'est de la photographie, en fait.
Exactement.
Donc,
c'est de la photographie.
C'est pas du HD.
Le grain de la pellicule, c'est un charme fou.
Mais bien sûr.
C'est très, très beau. Non, franchement, il faut donner une seconde chance à ce Blu-ray parce que c'est vraiment un joli film. Voilà.
Je vais juste conclure sur une curiosité. Parallèlement au film et à l'album, Mylène a édité un livre photo gigantesque.
Ah ouais, c'est vrai.
Du concert, des photos prises par Claude Gassian durant la résidence. C'est la première fois que Mylène édite un livre photo de ses concerts, la seule en tout cas à ce jour.
Vous voulez une exclue ?
Oui, donne-nous l'exclu.
Je suis dedans.
Comme où est Charlie, vous cherchez Sylvain.
C'est ça.
Et vous nous envoyez une photo avec le hashtag HDMF si vous le retrouvez dans le livre.
Le premier qui retrouve, il gagne quoi ?
Un badge HDMF.
Ah ouais,
vendu.
On va passer à la conclusion de cet épisode. On va laisser le passé redevenir le passé, mais avant, on va faire un dernier tour de table, tous ensemble, pour donner votre dernière impression et puis votre note surtout. Chose qui se fait pas du tout, je vais le faire moi maintenant.
Tiens, allez,
ça va changer.
Bousculons les habitudes.
Oui. Moi, je vais vous donner ma note tout de suite, c'est 6 sur 10. Franchement, le défi, elle a réussi à investir 13 soirs de suite Paris-Bercy. Après, moi, il y a quand même un gros manque entre l'intro et le final. Il se passe pas grand-chose. C'est grandiose, mais pour moi, il y a quelque chose qui prend pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, il y a un grand plus à ce spectacle, c'est qu'il vieillit très très bien. Donc voilà, c'est cool quand même.
Mais ouais.
Clément.
Bah, moi, quand je me replonge dans ce spectacle, en fait, voilà, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais voulu en profiter pas mal parce que j'habite pas très très loin de Bercy. Donc je m'étais dit, voilà, Mylène qui se produit 13 soirs à 10 minutes de la maison, ça arrivera pas 2 fois, donc je vais en profiter. Donc j'ai assisté à plusieurs représentations. Maintenant, pour prendre un petit peu de distance avec ça, enlever le côté affectif, je trouve que le spectacle est plutôt moyen. Si je me base uniquement sur l'aspect musical, vraiment concert, ça en revanche c'était vraiment très bien. On l'a dit, on l'a bien démontré pendant l'épisode, je pense. Donc pour moi, le résultat, c'est un peu en demi-teinte.
Et tu mettrais quelle note ?
Un peu plus que la moyenne, 6 sur 10.
Thibaut ? Comme je l'ai dit dans mon ressenti de l'époque, j'avais énormément d'attentes et je pense que c'est ce qui a pêché dans mon ressenti du spectacle. Trop d'attentes dans tous les sens. La promesse d'un show inouï. Donc voilà, moi je me souviens être sorti de Bercy déçu. Vraiment déçu parce que j'en attendais peut-être trop. J'avais peut-être trop projeté ce spectacle. En prenant du recul et en essayant d'avoir un avis extérieur à mon ressenti de l'époque, il y a un gros problème de rythme dans ce spectacle. On s'est arrêté sur certains moments forts, mais il y a plein de moments où ça part pas. Je trouve globalement que ce spectacle manque d'efficacité. Et je n'y reviens jamais.
Bon, et tu mets quelle note ?
6, comme vous.
Allez, Ludo, c'est à toi.
Bah moi, clairement, c'est le plus grandiose parce qu'on mêle tout. Les lumières, le son, un décor gigantesque, de la vidéo, c'est le plus complet, quoi. Et alors moi, j'adore la production, je suis un vrai amoureux de la production. Et c'est le concert qui m'impressionne le plus parce qu'il y a tellement d'éléments différents. Enfin, il y a un décor qui va décider de toutes les possibilités et les contraintes techniques. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très fort. Et puis, On est quand même au summum d'un certain lyrisme, d'une poésie qui lui est propre. Il y a une vraie âme, quoi. Il y a une intimité. Les lumières étaient superbes, envoûtantes. C'est le plus beau final que j'ai vu de ma vie. Je le trouve assez sous-estimé. C'est un des concerts de Mylène Farmer qui me touche le plus et que je trouve le plus abouti. Et c'est 8 sur 10.
Oh, wow, pas mal. Et on va terminer avec Bastien.
Franchement, voilà, c'était un vrai défi, comme on a appelé cet épisode, de faire un tel spectacle. Et le défi, il a été complètement réussi hein, pour moi. Franchement, c'est un incroyable travail. On l'a dit, tout est soigné. Les costumes, les décors, la direction musicale. Enfin, franchement, moi, il y a un travail énorme qui est fait. Et je pense qu'on a bien réussi à le mettre en valeur pendant cet épisode. Mais comme je disais, si on fait un comparatif avec tous les concerts, il faut bien arriver à peu près à jauger. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce problème de rythme pour moi, ce concert. Parce qu'on a parlé des moments forts. Et en fait, entre ces moments forts, je trouve que ça tombe souvent, que ça a un peu du mal à démarrer. Voilà, en fait, ça me gêne parce que après avoir fait un tel épisode, on trouve ça encore fantastique. Je trouve ça mieux. Et
parce
voilà.
que c'est fantastique.
Voilà. Mais donc, alors, une note par rapport à tout ce que j'ai dit, eh ben, je mettrais un 6,5. Comme ça, ça fait 13 sur 20 et ça va parfaitement avec le spectacle.
J'aime bien ton idée.
Voilà.
Et merci, Bastien.
Mais ce qu'on pourra dire aussi, c'est que, comme on l'a dit, il n'a pas vieilli.
C'est
au
vrai.
Final,
moi je trouve vraiment. Et regardez-le, franchement.
Et regardez-le en Blu-ray.
Ouais, exactement.
On va faire repartir les ventes, mais c'est
Et vous
très,
nous donnez votre
beau.
Avis hein, sur hashtag HDMF. Voilà, vous pouvez partager vos avis avec nous.
Bah, avec plaisir.
C'était Histoire de Avant que l'ombre à Bercy, épisode 6, Le Défi. Une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même, et réalisée par Ludo. Vous pouvez retrouver toutes les infos, les références, les autres épisodes sur notre site histoire2mf.com. Histoire.
Avec S.
Salut.
Bye. Salut.